Alors, on va laisser tout le monde sortir. Bonjour à chacune et à chacun. Alors, n'hésitez pas, il y a des places qui se sont libérées. Alors, je vous propose de prier avant qu'on fasse la lecture qui nous servira de base pour ces quelques méditations. Prions ensemble. Seigneur, oui. Seigneur, tu écoutes chaque prière, tu écoutes celle des enfants. Seigneur, et nous voulons te demander, aussi nous adultes qui restons ici, Seigneur, que tu conduises ces instants pour que la parole que nous allons lire soit une parole, Seigneur, qui puisse parler à nos cœurs individuellement. Que nous puissions ressortir d'ici, Seigneur, en ayant écouté, compris quelque chose qui vient de toi, Seigneur, pour nos vies, Seigneur, personnelles, et pour que nous puissions peut-être apprendre à te connaître ou à mieux te connaître, Seigneur, et à mieux te servir. Amen. Bon, je vous propose de commencer par faire la lecture du passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, que j'ai choisi pour ces quelques échanges ce matin. Je vous propose de faire la lecture donc du verset 1 jusqu'au verset 17. Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main et le toucha en disant « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, il fut guéri de sa lèpre. « Attention, lui dit Jésus, ne dis à personne ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse. Cela leur servira de témoignage. » Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda. Il le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement. « Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. » « Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres, et quand je dis à l'un « va », il va. Quand je dis à un autre « viens », il vient. Quand je dis à mon esclave « fais ceci », il le fait. En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et s'adressa à ceux qui le suivaient. Il dit, « Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Puis Jésus dit à l'officier, « Rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Jésus se rendit alors à la maison de Pierre. Il trouva la belle-mère de celui-ci alitée avec une forte fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Alors, elle se leva et le servit. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ces mauvais esprits. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi se réalisait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est lui-même chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Avant que on rentre dans ce texte et que je partage avec vous quelques idées clés, il me semble qu'il est important d'avoir en tête le contexte de ce chapitre 8. En effet, dans les chapitres 8 à 12 de l'évangile de Matthieu, Jésus apporte aux Juifs des preuves qu'il est le Messie dont les prophètes avaient parlé. En effet, quand vous lisez l'Ancien Testament, notamment par exemple les écrits du prophète Ésaïe, le Messie était annoncé et les Juifs devaient pouvoir reconnaître ce Messie, notamment à un moment donné où se feraient beaucoup de miracles. Donc les prophéties, notamment celle d'Ésaïe, vous pouvez lire par exemple Ésaïe 35, versets 5 et 6, ou Ésaïe 53, versets 4 et 5, donc s'accomplissent et témoignent de l'autorité de Jésus et du fait qu'il est ce Messie attendu. Pourquoi je dis cela ? Parce que, évidemment, quand on lit ce texte, on n'échappe pas au verset 16, qui peut nous poser des questions, verset 16, où il est dit notamment « Il guérit aussi tous les malades ». Forcément, ça peut susciter question. Pourquoi aujourd'hui tous les malades ne sont-ils pas exaucés, ne sont-ils pas guéris ? Je ne suis pas en train de dire que aujourd'hui, en 2019, Jésus ne peut pas nous guérir de maladie. Je pense que si, il peut le faire. Mais il me paraît très dangereux de conclure de ce bout de verset « Il guérit aussi tous les malades », ce côté systématique. Encore une fois, nous sommes là dans une période particulière où ce grand nombre de guérisons, de délivrances, doit témoigner aux Juifs de l'époque que le Messie tant attendu est arrivé, que les prophéties sont en train de s'accomplir. Donc, je pense qu'il faut prendre cette précaution, car, encore une fois, je pense que ça serait une erreur doctrinale majeure aujourd'hui de prêcher que, comme à l'époque, c'est quelque chose de systématique. Et malheureusement, sans vouloir juger personne, je sais qu'il y a des milieux qui le font, et qu'il me semble aussi que nous ne pouvons pas aller dans cette voie-là. Donc cette précaution étant maintenant prise, je vous propose d'aborder le premier point. Intéressons-nous un peu aux personnes qui, interviennent, évidemment à part Jésus, on reviendra sur l'action de Jésus, personnes qui interviennent dans ce récit. Ce sont des personnes vraiment différentes. Il y a le lépreux, il y a notre officier romain dont le serviteur est très malade, il est paralysé, il y a la belle-mère de Pierre, il y a des démoniaques, il y a un grand nombre de malades. Et le verset 1 qu'on a lu nous donne aussi ce contexte où on voit Jésus qui descend de la montagne, une foule nombreuse qui le suit, on peut imaginer ce contexte, une grande foule qui suit Jésus. Et pourtant, dans ce récit, nous avons un récit qui s'intéresse aux situations individuelles, aux situations particulières des personnes qui vont rencontrer Jésus et qui présentent de grandes différences. Alors, quelques aspects de ces différences. Premier point, premier aspect, je dirais, de ces différences, ces gens viennent d'un horizon, je dirais d'un arrière-plan culturel, religieux, différent. Le lépreux. Le lépreux, c'est très certainement un juif. Mais de par sa maladie, il est mis à l'écart de la société. Donc je dirais une double souffrance. Une souffrance à la fois physique, de par sa maladie, mais certainement aussi une profonde souffrance morale, mis à part de la société. On a notre officier romain. Lui, c'est un païen. Il ne doit pas connaître grand-chose, sinon rien, de la culture juive. Et aujourd'hui, si on transposait, on dirait, admettons, il vient ce matin dans cette église, je pense qu'il nous dirait, alors là, moi, j'y connais pas grand-chose, peut-être rien, aux écrits dont vous parlez. Bon, j'ai entendu parler de Jésus. C'est la raison pourquoi il va y avoir cette rencontre avec Jésus, mais j'y connais pas grand-chose. Lui, par contre, Bon, même s'il nous dit dans cet écrit que, évidemment, il n'est qu'un officier subalterne parce que lui-même a des supérieurs hiérarchiques, pourtant, il est officier et il a un vrai métier et il a une centaine de soldats sous ses ordres. Donc, voilà, on peut dire que socialement, il y a une certaine reconnaissance. Et puis, nous avons la belle-mère de Pierre. Alors là, elle est juive et on pourrait dire, waouh, elle a un gendre, Pierre, pas n'importe qui, donc on peut un peu deviner dans quel contexte elle est. Si on transpose aujourd'hui, on pourrait dire, waouh, c'est la belle-mère du super prédicateur ou d'un grand homme de Dieu. Waouh, quelle chance, elle est là. Et puis, nous avons les démoniaques. Alors eux, ben voilà, on pourrait dire des gens dangereux par moment, des fous. Donc, là aussi, mis à part de la société. Donc, des gens différents. Des gens, tu peux avancer, qui ont aussi des besoins différents. Besoins, on le voit, certainement physiques. Ben oui, si je suis très malade, j'ai des souffrances, des besoins physiques. Des besoins d'ordre spirituel. Des besoins, certainement aussi, comme on l'a vu, d'ordre social, des besoins sociaux. Troisième différence, c'est que dans ce passage, on voit que le cheminement, et je dirais le cheminement vers la foi de ces personnes est différent. Le lépreux, quel culot, on a envie de dire. Un lépreux, non, il n'avait pas le droit de s'approcher des autres, parce que de par sa maladie, un simple contact physique pouvait contaminer l'autre personne. Et là, ce lépreux, sur lequel on reviendra tout à l'heure, ce lépreux, il a le courage, le culot de s'approcher de Jésus. Il va directement vers Jésus alors que sa maladie le lui interdisait. La belle-mère de Pierre, on pourrait dire un peu, c'est grâce à ses relations qu'elle va avoir la chance, elle a un gendre qui s'appelle Pierre, et là, l'Écriture ne le dit pas, mais on peut imaginer un Pierre qui a dit à Jésus, tu sais, ma belle-mère, ça ne va pas du tout là, elle est très très malade, et puis Jésus a peut-être dit à Pierre, je vais passer à la maison. Parce qu'à l'époque, la belle-mère, elle n'a pas pu envoyer un mail à Jésus, tu sais, ça serait bien que tu passes chez moi ou je passe un coup de fil. Certainement, peut-être que Pierre a pris l'initiative. Donc, c'est grâce à l'action de son gendre, on pourrait dire, que, elle va être au bénéfice de l'action de Jésus. Et puis, le serviteur, lui, va être guéri grâce à l'initiative de qui ? Grâce à l'initiative, on va dire, de son chef, ce centenier romain qui sait qu'un de ses soldats a une maladie, qu'il est paralysé, mon serviteur est couché. Et donc, c'est par l'initiative de cet officier romain, que je vais appeler son chef, que il va être au bénéfice de l'action de Jésus. Peut-être parmi nous ce matin aussi, vous pourriez dire, j'ai rencontré Jésus ou j'ai été mis en relation avec Jésus parce que c'est moi qui ai pris l'initiative. J'ai un jour décidé d'ouvrir la Bible, de lire la parole de Dieu. J'ai rencontré Jésus. Peut-être que vous avez rencontré Jésus ou que quelqu'un veut vous le faire rencontrer. Un ami, un membre de votre famille qui dit, moi je connais Jésus, je t'invite à le rencontrer. Deuxième point, on va s'intéresser un peu à l'action de Jésus. Quelques caractéristiques de cette action. Première caractéristique, et il y en aura peut-être que j'ai oublié, mais j'en ai choisi quelques-unes, je dirais qu'elle est surprenante. Elle est surprenante par rapport aux lépreux. Que fait Jésus ? Jésus tend la main à ce lépreux. On aurait pu dire, vu que c'était interdit de toucher un lépreux, il aurait pu le guérir par une belle prière, il aurait pu le guérir à distance. Non, il va jusqu'à lui tendre la main. Humainement, on va dire quelle imprudence. Mais Jésus sait pourquoi il le fait. Deuxième action surprenante aussi, mettez-vous à la place de l'officier romain. Jésus lui dit, je vais venir chez toi. Et alors là, panique à bord, l'officier, il dit, oula, moi je suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu peux le faire autrement. Voilà. Jésus, parfois, est là pour nous surprendre. Donc ne soyons pas surpris si les choses parfois se font de manière imprévue. Deuxième caractéristique, on voit que l'action de Jésus, parfois, elle est directe et immédiate. On le voit avec la guérison du lépreux, directe, oui, Jésus lui tend la main, et il est dit à l'instant même, de manière immédiate, le lépreux fut guéri. Pareil pour la belle-mère de Pierre, il lui prit la main et automatiquement la fièvre le quitta. D'autres fois, l'action n'est pas forcément directe et immédiate. Parfois, l'action de Jésus se fait à distance et peut-être pas de manière instantanée. On le voit dans la guérison du serviteur, donc de l'officier romain. Jésus, on va dire, guérit, intervient à distance et il dit à l'officier, maintenant, rentre chez toi. L'officier, il rentre chez lui et là, à l'heure même, à l'heure même, son serviteur fut guéri. L'autre diversité qu'on voit dans l'action de Jésus, c'est que parfois Jésus a agi avec un contact physique quand il tend la main, et parfois l'action se fait sur sa parole. Quand on voit la délivrance des démoniaques, il est dit « par sa parole, il chassa ses mauvais esprits ». Là, il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas, par exemple, d'imposition des mains, c'est l'autorité, la parole de Jésus qui délivre ces personnes. Pour conclure sur ce second point, on voit que Jésus prend en compte la personne entière. Peu importe ses besoins, ils peuvent être physiques, ils peuvent être spirituels, ils peuvent être psychiques, ils peuvent être moraux, peut-être parfois tout ça ensemble. Jésus, lorsqu'il veut nous rencontrer, prend en compte toute notre personne et veut agir selon les besoins qui sont les nôtres et il est capable de le faire. Alors intéressons-nous maintenant, troisièmement, un peu aux attitudes des personnes qui ont rencontré Jésus. Je vous propose de distinguer l'attitude de ces personnes avant la guérison. Et après, on verra l'une ou l'autre attitude après leur guérison, ou on pourrait dire avant l'action de Jésus, ou après l'action de Jésus. Avant la guérison, là aussi, quelques caractéristiques que peut-être après nous pouvons aussi nous approprier à nous-mêmes. Avant la guérison, première caractéristique, tu peux la mettre, c'est, la soumission. Ce qui caractérise ce lépreux, on l'a dit, c'est certes le courage, mais aussi une profonde soumission. Le lépreux s'approche de Jésus et se prosterne devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux ». Un profond, c'est plus que du respect, une profonde soumission à ce qu'est Jésus pour lui. Deuxième caractéristique, c'est l'humilité. Je pense qu'elle existait chez ce lépreux et on la retrouve complètement aussi chez notre officier romain. Il dit, quand Jésus lui dit, je vais venir chez toi, Il lui dit, non, non, je suis pas qualifié pour te recevoir, ou autrement dit, qui suis-je, moi? Qui suis-je, moi, pour que tu viennes chez moi? Et peut-être que parmi nous, il y aurait quelqu'un ce matin qui dirait aussi, mais qui suis-je, moi, Jésus, pour que tu viennes me rencontrer? Je n'en suis pas digne, et d'ailleurs, je ne sais pas trop grand-chose encore sur toi. Voilà, il y a peut-être des gens brillants, là, qui connaissent bien la Bible, mais moi, tu sais... C'est pas trop mon cas. Quelle humilité. Pour continuer sur notre officier romain, j'irai aussi quelle authenticité de cette personne. Cet officier, j'ai envie de dire, il parle avec ses mots. Bah ouais, il n'allait pas sortir des grands versets bibliques, là, parce qu'il ne les connaissait certainement pas. Donc, il parle avec ses mots. Et il dit... à Jésus, tu sais, bon, moi, dans mon métier, bon, j'ai une centaine de soldats, et quand je dis à l'un, va, il va, fais ceci, ben, il le fait. Donc, vu, vous voyez, dans son raisonnement, vu quand moi je suis en position d'autorité, mes soldats, ils m'obéissent. Maintenant, moi, je te reconnais, toi, Jésus, comme autorité. Et j'ai cette confiance que si je te demande cela, parce que tu es l'autorité, ben tu es capable de le faire. Je me suis imaginé si cet officier, ou quelqu'un qui lui ressemblerait, venait parmi nous ce matin. Peut-être que dans un moment de prière, comme on a eu tout à l'heure, il n'aurait pas fait de belles phrases qu'on a l'habitude d'entendre dans une église. Il l'aurait dit avec ses propres mots. Il dit « Waouh, alors celui-là, d'où il sort ?» Non. Mais quelle authenticité. Jésus nous invite à nous approcher de lui tel que nous sommes, la personne que nous sommes. Et alors, peu importe si l'un il bégaye, l'autre il bégaye pas, si l'un il a un mot de ceci, cela, ça fait pas politiquement correct ou pas, mais s'il est authentique dans son cœur, il va s'adresser à Jésus en disant, voilà, moi je te connais peut-être pas encore trop, mais j'aimerais te rencontrer, je crois que tu es quelqu'un qui peut faire quelque chose dans ma vie. Pour terminer sur notre officier, quelle compassion aussi. C'est ce qui va aussi toucher Jésus. En fait, il ne demande rien pour lui-même, il demande pour son serviteur qui est malade. Il avait une centaine de soldats sous ses ordres, on peut dire, bon, un de plus, un de moins, et puis, bon... les militaires, ils sont parfois plutôt durs qu'avec un cœur très très tendre. Voilà, c'est comme ça. Donc là, quelle compassion. Il voit, lui, il voit le besoin de l'un de ces hommes et il s'intéresse à eux. Ça peut être un exemple pour nous aussi. Si vous êtes en position d'autorité, vous gérez un service, vous gérez du personnel, tout ça, de s'intéresser individuellement à ces personnes, même hors travail. Mais voilà, quelqu'un qui a compassion des autres. On termine, avant la guérison, on l'a déjà dit, le courage aussi, le courage de ce lépreux qui se pose pas 36 000 questions et qui dit peut-être que c'est de la folie, mais voilà, Jésus est là, je prends mon courage à deux mains, et je vais le rencontrer. Et donc, forcément, un peu le fil conducteur, c'est que tous ces personnages dont nous avons parlé, ce qui caractérise fondamentalement leur attitude, c'est leur foi. Que je connaisse beaucoup ou moins Jésus pour l'instant, je veux le rencontrer et je lui fais confiance. Après la guérison, quelques mots. Après la guérison, un aspect clé, je dirais que c'est le témoignage. On voit dans ce passage que la guérison du lépreux, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que après, Jésus dit ne dis à personne ce qui est arrivé. On dit mais c'est quoi? Il aurait dû faire grande publicité de ce qui lui était arrivé. Voilà, c'est que Jésus ne voulait pas que on le reconnaisse roi. Il n'était pas encore, voilà, Jésus n'était pas encore passé par la croix. Hein, donc l'objectif, ce n'était pas là qu'on fasse grande publicité de ce qui était arrivé. Et ce lépreux, il va retourner le prêtre, qui à l'époque, le prêtre avait aussi un peu un rôle de, je dirais, de médecin, de reconnaître là, la guérison qui avait été effectuée. Mais il y a la phrase clé à la fin du verset 4, c'est « Cela leur servira de témoignage. » À qui ? Aux Juifs. Cela leur servira de témoignage. Et je transpose un peu pour nous, mais peut-être que ce qui nous arrive, ce qui arrive dans nos propres vies, ben, Jésus veut aussi que ça serve de témoignage aux autres. Peut-être à nos proches qui disent « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie ?» Et là, c'est l'occasion de témoigner, c'est l'occasion de dire comment on a rencontré Jésus, ce qu'il a fait. Et Jésus, par rapport à cet officier romain, hein, met en avant, je crois qu'il n'y a que deux fois dans l'évangile que Jésus fut rempli d'admiration pour quelqu'un. Là, il est dit « Jésus est rempli d'admiration pour cet officier romain. » Parce que lui, qui pourtant avait, on dirait aujourd'hui, peut-être peu de base biblique, il fait confiance à Jésus. Et c'est un témoignage fort, mais j'y reviendrai dans les éléments de conclusion, un témoignage fort pour les Juifs, parce que Jésus est en train de dire « vous, Juifs, vous devriez, avec les miracles là qui se font, reconnaître que je suis le Messie. Et vous me rejetez. » Et là, un officier romain qui ne connaît pas grand-chose, lui, au contraire, ben, il témoigne de la foi qu'il a en moi. Autrement dit, il reconnaît que je suis le Messie, même s'il réalise certainement pas tout. Certainement aussi que cette guérison du serviteur, de l'officier, mais là, la parole ne nous en reparle pas, donc je ne vais pas, voilà, mais certainement que ça a eu un impact fort dans la vie de cet officier romain. Certainement que sa vie n'a plus été la même avant et après. Et puis, après la guérison, il y a aussi le témoignage, ou l'exemple, tu peux mettre, Nicolas, de la belle-mère de Jésus, de Pierre. Il est dit tout de suite, hein, une fois qu'elle est nouveau sur pied, une fois qu'elle est nouveau, on va dire, en forme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se leva et le servit. Voilà. Elle aurait pu dire, oh, ben maintenant, bon, je vais prendre le temps pour récupérer, voilà. Tout de suite, ce qui lui vient à l'esprit, c'est de servir. Alors, quelques éléments de conclusion ou de réflexion, même si, j'allais dire, avec ce qui a été partagé, ça a déjà émergé dans votre tête et ce n'est pas limitatif. Quels enseignements pour nous ? Premier enseignement, c'est que chaque personne est invitée à rencontrer Jésus, qu'elle soit présente ce matin ou pas présente, mais peu importe d'où elle vient, peu importe qui elle est, peu importe son arrière-plan culturel, religieux ou je ne sais d'autre, chaque personne est invitée à rencontrer Jésus. Peut-être à travers notre intermédiaire, hein, on l'a vu. Voilà, le paralysé a été guéri parce que cet officier romain, je vais en dire, l'a mis en contact sans qu'il ait été en contact physique avec Jésus. Deuxième enseignement, justement, dans quel endroit, normalement, les personnes qui ont rencontré Jésus se retrouvent? Alors certes, il y a évidemment l'Église universelle, mais dans une Église locale. Et l'Église locale, je dirais, est composée de cette diversité. Et quand je vous regarde devant, là, voilà, bah, quelle diversité! Alors, le prenez pas mal, il y en a qui sont plus jeunes, d'autres qui sont plus âgés, il y en a qui ont des lunettes, d'autres qui n'ont pas des lunettes, donc il y en a qui ont des cheveux blancs, d'autres qui ont moins de cheveux blancs. Voilà, il y a des, Il y a des arrière-plans culturels différents. Pour les certains, on les devine. On voit qu'il y a quelqu'un qui vient du Japon. Voilà. Donc, quelle diversité ! Diversité à tout point de vue. Peut-être qu'un des seuls endroits où je dirais que cette diversité doit et peut s'exprimer, peut-être parfois pas non plus avec toutes les facilités, hein, parce que c'est beaucoup plus facile de dire on se retrouve à 100, c'est les jeunes, 100 plutôt les seniors, 100 que ceux qui sont d'origine arrière-plan évangélique, voilà, c'est certainement, et c'est beaucoup plus compliqué, de se retrouver avec toute cette diversité. Mais l'Église est là pour ça. L'Église locale accueille et doit accueillir, parfois gérer, cette diversité. Troisième enseignement, Jésus est l'autorité. Jésus est l'autorité capable d'agir dans chacune des situations, dans chacune de mes situations, et peut-être parfois de manière inattendue. Les choses ne se passent pas toujours comme je l'avais prévu, même parfois comme je l'avais demandé. Parfois si, parfois non. Quatrième enseignement, à l'exemple de ces personnes que nous avons vues ce matin, j'allais dire que nous avons rencontrées, côtoyées ce matin dans le chapitre 8, il est important de se soumettre à la volonté de Jésus. Et j'ai ajouté d'être vrai, d'être authentique. Inutile avec Jésus de jouer un jeu. De toute façon, il nous connaît. Donc, je dirais qu'il est inutile aussi de jouer un jeu auprès des autres. Soyons vrais, soyons authentiques. Disons les choses, peut-être avec nos mots, mais disons les choses telles qu'elles sont, sans les transformer de manière artificielle. Cinquième point, quelle réponse, et ça sera ma conclusion, quelle réponse à l'action de Jésus dans ma vie? Je distinguerai deux aspects. Quelle réponse de l'action de Jésus dans ma vie? Si dans ma vie j'en suis au point, c'est peut-être le cas, où Jésus me dit « je veux te rencontrer, j'aimerais te rencontrer, tu ne me connais peut-être pas encore, mais la question est posée, est-ce que je veux rencontrer Jésus? Il est prêt à m'accueillir, mais est-ce que je le veux? Il ne forcera pas la main, il ne forcera pas la porte, c'est à moi de décider. Et si, c'est le dernier aspect, si j'ai déjà rencontré Jésus dans ma vie, la question qui est posée, elle a déjà été posée, je crois, dimanche dernier, voire le dimanche d'avant, c'est est-ce que j'ai aussi cette volonté, à l'exemple de la belle-mère de Pierre, est-ce que j'ai cette volonté de servir? Alors, de servir au sein de l'Église locale, parfois en dehors de l'Église locale, mais en tant que chrétien, je suis appelé à servir. Je ne suis pas appelé à juste me dire « voilà, il s'est passé quelque chose dans ma vie, c'est super, point barre, je suis appelé à servir ». Et certainement le meilleur endroit pour servir, encore une fois, ça n'exclut pas qu'on puisse avoir des engagements dans des œuvres extérieures à l'Église, ce n'est pas ça la question, mais est-ce que j'ai à cœur de servir? Et servir dans le cadre d'une Église locale, c'est servir premièrement Jésus, mais c'est aussi mettre les autres au bénéfice de ce service. Dans une église locale, certainement que ça sera redit dans les semaines qui viennent, il y a multiples moyens de servir. Peut-être que la belle-mère de Pierre, on peut très bien imaginer, hein, la femme, voilà, hop, elle est nouveau en forme, et elle a fait plein de choses, peut-être toutes pratiques. Il y a bien des manières diverses de servir. Par contre, la question qui m'est poser, c'est où j'en suis avec cela. Est-ce que je suis prêt à servir? Amen.